Voici les titres du journal.
Le niveau du lac Léman se rapproche dangereusement du bord. L'alerte est donnée du côté de Port-Valais. L'état-major de conduite du lac et la commune appellent à la prudence ce week-end. En ce début d'été, le service de pédiatrie de l'hôpital du Valais est anormalement surchargé. De nombreux enfants sont en effet hospitalisés pour des maladies qui se développent habituellement entre Noël et Pâques. Et les jeunes paient un lourd tribut à la crise sanitaire. Leur précarité financière s'est pour certains considérablement aggravée. Dans le canton de Vaud, la structure Jet Service du centre social protestant leur vient en aide. En football, le FC Sion a présenté sa nouvelle direction hier à la porte d'Octodure. L'occasion pour son président, Christian Constantin, de faire le point avant le prochain exercice.
Et pour la météo, de la pluie pour cet après-midi et pour demain, le temps sera changeant en matinée. Avant le retour de la pluie l'après-midi, la météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Joël Espy. Bonjour Joël.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Un appel à la prudence est lancé du côté de Port-Valais. À cause des précipitations de ces derniers jours, le lac Léman va atteindre son niveau maximal ce week-end. Les vannes du côté de Genève sont ouvertes au maximum. Il reste donc à observer. État de la situation avec Pascal Schurmann. Il est le chef de l'état-major de conduite du Haut-Lac.
Alors, à l'heure actuelle, pour Port-Valais, nous avons plus beaucoup de soucis au niveau du Rhône, qui à l'heure actuelle est en décrue. On est tranquille jusqu'à demain, voire samedi, où il va reprendre un petit peu de l'altitude. Au niveau du lac Léman, cependant, on a quand même quelques soucis. On vient de recevoir une alerte du canton de Genève par rapport au niveau du lac, qui va encore augmenter pour atteindre un pic samedi dans la journée. Sinon, le canal Stockalpère également, qui est relativement haut, mais on garde un œil dessus.
Comment ça va se passer la circulation au bord du lac pour le public ce week-end, justement, là où on va atteindre des hauteurs quasiment jamais vues au niveau du lac Léman?
Alors, la situation au niveau du lac Léman est un peu préoccupante et nous avons donc décidé avec les autorités de mettre des rubalises, des rubans sur les zones un peu à risque pour signaler aux gens d'agir avec prudence. Tout reste accessible, bien entendu, les commerces, le bord du lac reste accessible, mais des rubalises pour rappeler aux gens d'être prudent par rapport aux eaux du lac, s'il y a des vagues ou autres. Voilà. Donc on est en train de mettre en place ça à l'heure actuelle afin de rappeler aux gens la prudence nécessaire.
Donc c'est quoi vos recommandations? C'est de ne pas s'approcher finalement du bord du lac, de ne pas aller prendre des photos et tout ça?
Voilà, c'est surtout de ne pas aller tout près du lac, de rester quand même à une certaine distance. On peut regarder, mais pas forcément se rendre en grande quantité, en masse, pour faire des photos. Pas mettre en danger qui que ce soit, juste pour une photo de l'année.
Est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau des propriétaires de bateaux?
Alors oui, en effet, aux propriétaires de bateaux, on recommande tout de même de faire un passage sur place, de venir contrôler que leur bateau est bien attaché, bien amarré, éventuellement donner un peu de mou à l'attache, à l'ancrage, pour pas que tout soit étiré avec la montée des eaux, en effet.
Il y a déjà des petites inondations, hein, aussi vous me disiez, au niveau des pontons, c'est ça. Donc déjà, prudence, ça peut être, il peut y avoir des surfaces glissantes, etc., on imagine, hein.
Voilà, tout à fait. On a certains pontons qui sont déjà un peu mouillés, bien mouillés, voire même sous l'eau certains. Donc il faut être très attentif et agir avec prudence.
Merci beaucoup. Il y a un moyen de se renseigner éventuellement pour suivre l'état de la situation pour le public?
Alors pour le moment, on n'a pas mis en place d'informations au public, compte tenu que ce sont que des moyennes que l'on reçoit. Maintenant, si la situation devenait s'aggraver, à ce moment-là, on mettra en place un système d'information au public.
Et l'altitude du lac Léman s'élève pour l'heure à 372,56 mètres. À Port-Valais, on est donc à 5 ou 6 centimètres du bord. Et la crue des lacs et cours d'eau s'est aggravée dans certaines régions de Suisse durant la nuit dernière en raison de ces nouvelles pluies. Les niveaux des lacs des quatre cantons, de Bienne et de Zurich, ainsi que ceux de l'Aar et du Rhin, ont encore augmenté. L'interdiction de naviguer sur le Rhin, justement, a été prolongée par la région de Bâle. Ces crues devraient continuer d'augmenter, ces niveaux devraient continuer d'augmenter ces prochains jours. L'Office fédéral de l'environnement prévoit entre 60 et 80 mm de pluie dans les régions touchées. Le président de la Confédération, Guy Parmelin, a appelé la population à la prudence et évoqué sur Twitter les risques d'inondation à venir.
Le service de pédiatrie de l'hôpital du Valais est particulièrement sollicité en ce début d'été.
De nombreux enfants y sont hospitalisés pour divers problèmes respiratoires typiques de la saison hivernale, bronchiolite et RSV en tête. Ces virus se manifestent 3 à 4 mois plus tard dans l'année. Et l'une des raisons à cela serait l'augmentation manifeste des mesures d'hygiène prises cet hiver en raison du coronavirus. Pour le chef de service de pédiatrie du centre hospitalier du Valais-Romand à l'hôpital de Sion, le docteur Juan Laure, cela n'est pas une grosse surprise.
On a eu un message d'alerte de la part de nos collègues de l'autre hémisphère, des Australiens et des Néo-Zélandais en particulier, qui avaient observé ce décalage de quelques mois des virus usuels qu'ils avaient, typiquement le virus respiratoire syncytial, qu'on appelle le virus RSV par exemple.
La surcharge qui est constatée actuellement, est-ce qu'elle est problématique ou est-ce qu'elle est complètement gérable?
Voilà, surcharge actuelle, elle est gérable, mais effectivement, ça nous a mis dans une petite difficulté parce que la dotation du personnel infirmier ou médical est différente en hiver pour l'hôpital de Sion qu'en été, ce qui a rendu la tâche un peu plus difficile. Il a fallu réfléchir un petit peu à l'organisation. Ce qui était observé également, c'est que des enfants un peu plus grands étaient symptomatiques de bronchiolite et qui nécessitaient une observation à l'hôpital, un peu plus que les autres années.
Est-ce que ça, c'est alarmant?
Ce n'est pas alarmant parce que les enfants vont très bien gérer ça, ils vont bien guérir et ça va avancer comme les autres épidémies de virus hivernaux. Je pense qu'on verra d'ici 2022-2023 comment les épidémies vont bouger. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve de manière normale pour cet hiver une épidémie virale usuelle comme la grippe et le virus respiratoire syncytial. Par contre, ça dépendra de l'évolution de l'épidémie et du contrôle de transmission du Covid, probablement.
Des propos recueillis par Quentin Frey. Environ 25% des enfants hospitalisés à l'hôpital du Valais le sont pour des problèmes respiratoires, un chiffre particulièrement élevé compte tenu de la période. La police valaisanne met en garde et prodigue ses conseils à la suite de l'enregistrement de deux affaires d'arnaque à l'investissement en ligne perpétrées durant ces derniers mois. Les escrocs proposent aux lésés, par contact téléphonique ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des investissements sur des pseudo-plateformes d'investissement en ligne. Près de 4 millions de francs ont été perdus à la suite de ces arnaques.
Jet Service a du travail plein les bras.
De nombreux jeunes, en particulier les plus vulnérables, ont vu leurs difficultés s'aggraver dans le contexte de la pandémie. Disparition des boulots payés à l'heure, augmentation des tensions familiales, fragilisation de la situation financière des parents. Entre autres, créé en 1984 par le Centre social protestant Vaud, Jet Service a vu son activité bondir ces derniers mois. Avec Caritas Vaud, cette structure est parvenue à lever plus d'1 million de francs supplémentaires pour aider les jeunes. Aujourd'hui, le bout du tunnel apparaît-il ou faut-il s'attendre à pire encore? Yves Terrani a posé la question à Bastienne Jurchel, directrice du CSP Vaud.
On est encore dans l'incertitude. Je pense que cette crise sanitaire a quand même précarisé beaucoup de familles. Évidemment que c'était des familles qui vivaient déjà des situations difficiles qui se sont aggravées. Donc nous, en tout cas, on a encore aujourd'hui obtenu de l'aide du canton de Vaud et le dispositif est encore en place et nous allons le maintenir aussi longtemps que c'est nécessaire pour accompagner ces jeunes pour qu'ils puissent, alors ce sont tous les jeunes qui sont aidés, mais principalement et avec un accent particulier sur les jeunes en formation parce que ça nous semble très important que ces jeunes puissent terminer leur formation et puis être armés pour entrer dans la vie professionnelle avec un diplôme.
Le canton, vraiment, il vous suit et il a compris que c'était une vraie problématique, quelque chose de vraiment préoccupant.
En tout cas, on a un très bon partenariat avec le canton en ce qui concerne les jeunes. Avant la crise elle-même, on a monté un projet pilote, donc ça n'avait rien à voir avec la question du Covid, un projet pilote d'ouvrir des permanences socio-juridiques pour les jeunes à Yverdon et à Payerne en 2020. Donc ça, malgré la crise, on l'a fait. Donc on a ouvert ces permanences, donc c'est une extension de Jet Service dans le Nord Vaudois. Et ça, ça a marché très fort, évidemment, pendant cette période. Bien entendu, nous appelons de notre vœu de pouvoir étendre ces permanences socio-juridiques à toutes les régions du canton. Donc là, bon, les financements cantonaux ne sont pas encore là, mais on espère le faire dans les prochaines années, de pouvoir faire cette extension. Donc on a un partenariat très constructif avec le canton. Par ailleurs, pour ce qui est les conséquences Covid, alors là aussi, on a un soutien du canton en ressources et en ressources donc humaines et financières. Et donc, on a mis en place un dispositif très récemment, là, mi-juin, pour apporter encore de l'aide aux personnes qui en ont encore besoin. Et là, les jeunes aussi ont accès à ce dispositif.
À noter que destinée aux 16 à 25 ans, la structure Jet Service utilise une approche holistique. Elle prend en compte toutes les dimensions sociales, familiales, financières. Des binômes composés de travailleurs sociaux et de juristes reçoivent les jeunes. L'aide proposée peut consister en un appui financier, une simple information, un conseil, un courrier, une négociation avec des tiers tels que parents ou employeurs, un recours, voire un appui pour entreprendre une démarche administrative judiciaire. C'était un dossier préparé par Yves Terrani. Les librairies La Fontaine et Saint-Augustin unissent leur destinée. Après 38 ans d'exploitation, les gérants de l'enseigne Veuvezanne cherchaient un repreneur en raison de leur arrivée à la retraite. La rencontre avec la congrégation des Sœurs de Saint-Augustin à Saint-Maurice a permis de démontrer que leur vision et leurs valeurs étaient similaires. La responsabilité du site Lémanique sera confiée à l'actuel directeur de l'entreprise zagonoise.
Klaxon, freinage, accélération, cris.
Des bruits qui se rencontrent tous les jours dans la rue et qui donnent parfois envie de s'éloigner de la frénésie d'une ville pour rejoindre des endroits plus silencieux. À Martigny, il existe un coin qui s'y prête particulièrement et qui est le théâtre d'une exposition. Valérie Blum s'y est promenée en compagnie de l'artiste, la valaisanne Aline Fournier.
À Martigny, il suffit d'emprunter une petite route en deux maisons et l'on sort de la ville en direction du château de l'Abbatia. Très vite, les bruits des voitures ou de la rue s'éloignent, la nature prend de la place. Les arbres marquent un espèce de tunnel, puis cèdent face à la vigne qui accompagne le promeneur jusqu'au château. Quatre drapeaux, dans le cadre du GPS Off pour Janio Space Project, la structure en charge du projet, présentent l'univers d'Aline Fournier. Sobrement intitulé « Silence », ces étendards, qui passent du noir au blanc, suivent les pas du marcheur qui tourne les talons à la ville et de son tapage. L'artiste valaisanne est sourde depuis plus de 30 ans et elle a décidé d'arrêter de porter des appareils il y a un peu plus d'un an. Et au moment de faire quelques pas dans son univers, on réalise finalement tout ce qu'on entend. Les bruissements qu'elle n'entend pas, mais qu'elle perçoit différemment.
Le silence, c'est quelque chose de très particulier, le silence complet dans lequel je vis. Je suis consciente que c'est à la fin de chance parce que c'est une réelle bulle. Et à la fin, il faut se rendre compte que du fait que je suis coupée de ce flux incessant, ben ça fait que je ne me sens pas toujours reliée au monde. Des fois, c'est le vent qui remplace cette sensation d'exister qu'on peut avoir en étant reliée au monde par l'audition. Et au début, c'est vrai que j'avais tendance à m'adapter exclusivement au monde du bruit. D'une part aussi parce que j'étais appareillée durant longtemps, durant presque 30 ans. Donc c'était un réflexe naturel, même si c'était pas mon univers à moi, de tendre vers le bruit. Et puis petit à petit, en quête de mon identité, j'ai eu vraiment besoin d'accepter ce silence. Et actuellement, je l'explore, c'est vraiment intéressant. Je me rends compte que ça fascine les gens finalement. Il y a une curiosité et en fait c'est un bonheur de pouvoir partager et j'ai trouvé un médium qui me le permette, donc là.
En marchant avec l'artiste, il peut se passer 10, 20, 30 secondes sans parler. Si naturel chez elle, alors que nous autres, entendants, avons ce besoin perpétuel de rompre ce mutisme. Une faculté qu'elle a peut-être acquise lors de son parcours, souvent face à elle-même.
J'ai constaté ce bienfait, vraiment cet apaisement de la nature. En 2016, après être rentrée d'une résidence en Islande, parce que j'ai eu besoin de m'immerger dans la nature, m'isoler. Je suis restée 4 ans dans un chalet isolé. J'avais vraiment besoin d'être cette protection naturelle, cet apaisement visuel aussi. Parce que finalement, j'étais dans un lieu silencieux, dans cette montagne. Et pour une fois dans ma vie, j'étais synchronisée entre ce que je n'entendais pas et ce que je voyais. Et ça m'a vraiment permis de me construire, de construire mon identité. Et du coup, le fait de revenir à ma propre nature, qui est d'être dans le silence, étrangement, ça me permet d'avoir plus de liens, de vrais liens avec les gens. Ces liens, ils se font pas par la communication, par la parole, puisque j'entends plus rien et c'est vraiment compliqué. J'ai la lecture labiale. Mon lecture labiale, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Donc c'est 5 minutes de concentration intense et après je lâche. Du coup, je dois absolument trouver d'autres moyens de communiquer. L'art est un moyen. Je cherche aussi par le contact corporel si je peux développer quelque chose. Et à chaque fois, je reviens à cette nature parce qu'il y a des liens automatiques qui se font. Et c'est ce qui nous relie tous finalement.
L'exposition laisse libre cours aux marcheurs d'entrer, ou non, dans la réflexion posée par Aline Fournier. Et moment de parvenir au sommet, comme un symbole de paix intérieure, ne reste que la représentation du silence.
La représentation du silence par Valérie Blum. L'exposition se tient à Martigny jusqu'au 24 octobre. D'ici là, des œuvres inédites d'Aline Fournier seront à découvrir dès le 11 septembre à la galerie Contre-Contre à Saint-Maurice. À savoir encore qu'Aline Fournier a reçu tout récemment l'un des prix culturels d'encouragement 2021 de la part du canton du Valais. La start-up valaisanne Procide remporte le prix First Ventures d'une valeur de 150 000 francs. Soutenue par la HESSO Valais-Vallis, elle a séduit le jury de la fondation Gebert Truff avec son projet de protéines locales issues du brassage de la bière. Les jeunes entrepreneurs intégreront les laboratoires du nouveau campus Énergie Polystation, ceci dès cet automne. Le conseil de fondation de la Maison d'ailleurs à Yverdon a décidé d'ouvrir une enquête sur le directeur du musée, Marc Catala, épinglé par un article du Blic. La municipalité yverdonoise sera associée à cette démarche. L'enquête sera ouverte dès que les Numérique Games, qui ont lieu du 27 au 29 août prochain, le festival donc lié au musée, seront terminés. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la ville dit avoir pris acte avec satisfaction de la décision du conseil de fondation d'ouvrir cette enquête. Un mouvement de débrayage organisé par les syndicats Avenir Syndical et SSP a eu lieu hier en fin d'après-midi à l'aéroport de Genève. Swissport a fustigé ce mouvement qui, selon Avenir Syndical, va se poursuivre cet été et vise à obtenir une convention collective de travail correcte. Une trentaine de vols ont été touchés.
Comment réconcilier agriculture et écologie ?
Après le débat à couteau tiré sur l'interdiction des pesticides, la conseillère nationale verte genevoise Delphine Klopfenstein-Broghini a une piste, c'est l'agroforesterie. La méthode consiste à intégrer des arbres fruitiers aux feuillus, aux cultures, et à adapter les paiements directs à l'agriculture à ce type de contribution écologique. Delphine Klopfenstein-Broghini a déposé une motion en ce sens au Conseil national.
L'agroforesterie permet justement de combiner davantage la biodiversité et l'agriculture. C'est des arbres bien organisés qui permettent d'avoir cette association entre culture vivrière et fourragère et arboriculture fruitière, également production du bois. C'est extrêmement intéressant parce que ça permet aussi au niveau de l'agriculture de diversifier ses productions et puis de manière générale, ça permet une protection de la biodiversité. Donc c'est vraiment cet entre-deux entre nature et agriculture. Et l'idée aujourd'hui, c'est que le Conseil fédéral puisse soutenir davantage ces projets. On sait qu'aujourd'hui, il y a des projets qui existent au niveau des cantons romands. Si l'agroforesterie doit devenir attractive pour le milieu agricole, eh bien, il faut aussi évidemment qu'il y ait un retour. Et pour ceci, il faudrait notamment adapter les paiements directs, notamment sur la question des arbres feuillus.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Des pirates informatiques ont eu accès aux données des clients de Comparis lors de leur attaque contre le site de comparaison en ligne le 7 juillet dernier, selon la police, et n'exclut pas un vol de données et appelle les clients à faire preuve de prudence. À l'étranger, à la suite des intempéries et des inondations qui ont également frappé l'ouest de l'Allemagne, et là où 6 maisons ont été emportées dans une rivière, le bilan s'élève désormais à 19 morts. C'est une alerte que nous avons reçue de l'ATS. Le gouvernement cubain a annoncé hier une première salve de mesures pour apaiser la population 3 jours après des manifestations historiques. Affirmant avoir, je cite, tiré des enseignements, il autorise notamment l'entrée sur l'île d'aliments et de médicaments. Le jury de la Semaine de la Critique, l'une des sections parallèles du Festival de Cannes, a décerné hier son grand prix à un premier film égyptien, Feathers, d'Omar El Zoairi. La Semaine de la Critique est consacrée à la découverte de nouveaux talents. Dans le film, une femme dévouée corps et âme à son mari et à ses enfants doit tout à coup assumer le rôle de chef de la famille après qu'un magicien a transformé accidentellement son mari en poule lors de l'anniversaire de leur fils de 4 ans. Des archéologues israéliens ont dévoilé hier des pans manquants de la muraille de Jérusalem datant de l'âge de fer. Ils confirment, selon eux, pour la première fois, l'existence d'un rempart entourant la ville sainte.
Et
une courte page sport. En football, le FC Sion a présenté sa nouvelle direction hier matin. Le club valaisan avait donné rendez-vous à la presse en lieu et place de la porte d'Octodur pour lancer la prochaine saison. Son président, Christian Constantin, en a également profité pour présenter les deux nouvelles personnes qui ont rejoint sa garde rapprochée. Il s'agit de Massimo Cosentini, qui officie en tant que directeur général, et l'enfant du club, Gelson Fernandez, au poste de vice-président. Pour l'ancien joueur professionnel, passé notamment par le Sporting ou encore Manchester City, c'est un retour au pays, qui plus est dans une structure qu'il connaît parfaitement, lui qui a été formé à Sion. C'est d'ailleurs pour cet environnement familial que l'ancien international a accepté ce nouveau défi. Les précisions de Gelson Fernandez.
C'est toujours difficile d'entreprendre une après-carrière après avoir finalement toujours joué au football. Et puis, on a toujours eu ce contact très fort entre nous. Le club, je peux vous le dire, c'est mon club de cœur. Et puis, j'ai une grande affection pour le président et puis toute sa famille, le directeur sportif. J'ai eu une longue discussion avec Arsène Wenger une fois sur la suite à donner sur ma carrière, finalement. Est-ce que c'est le coaching? Est-ce que c'est le management? Est-ce que c'est le côté administratif? Et puis, il m'a dit, c'est pas important où tu travailles, mais avec qui.
De son côté, Massimo Cosentini vit également un retour à la maison. Celui qui était jusqu'alors secrétaire général à l'Inter de Milan a grandi à Sion, proche de l'environnement du club. Pourtant convoité du côté de l'AS Rome, le nouveau directeur général a choisi le FC Sion. Explication de Massimo Cosentini.
Et c'est un rêve pour moi de revenir à Sion. C'est un rêve de revenir où j'ai grandi et de pouvoir partager mon expérience que j'ai vécue durant toutes ces années en Espagne, puis en Italie. Je ne suis pas venu faire du tourisme. Avec Jess, on a parlé à l'équipe aussi. Donc, je ne suis pas venu ici pour vivre un beau moment en Valais, profiter du beau temps. Ouais, bon, même si c'est dernièrement le beau temps, c'est pas top. Mais je suis venu ici pour gagner des titres. Enfin, l'équipe devra gagner des titres.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. À noter que pour la prochaine saison, le budget du FC Sion s'élèvera à 23,5 millions de francs, un montant qui reste stable par rapport aux saisons précédentes.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec les mines de sel de B et leur visite en soirée à la lanterne à la recherche des sources salées.
De la pluie encore pour cet après-midi avec des précipitations qui pourraient être encore localement abondantes, notamment sur le long des versants nord des Alpes et du Jura. La limite pluie-neige va remonter de 2700 à 3000 mètres et le vent de sud-ouest modéré sur la Riviera soufflera encore cet après-midi avec encore et toujours cet avis de fortes précipitations de degré 3 et qui a été émis par un météo suisse pour le versant nord des Alpes dont il faut faire très attention. Soyez très prudents. Maximum aujourd'hui 18 degrés en pleine, 15 à 1000 mètres. Pour demain, eh bien, ciel changeant tout d'abord en matinée alternant averses, surtout en montagne éclaircie, plus généreuse en plaine. L'après-midi, à nouveau plus nuageux avec des averses intermittentes, parfois orageuses et plus nombreuses le long du Jura et des Préalpes. Tendance au jurant l'après-midi sur la Riviera évoluant en faible bise. En fin de journée, il va faire demain 23 degrés au maximum en plaine, 17 à 1000 mètres. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.